Les états généraux de la bioéthique se sont achevés il y a un an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Sur certaines questions, comme l'accès aux origines, le régime de filiation en cas de PMA avec tiers donneur, plusieurs options sont possibles. Et le gouvernement a retenu celle qui lui semblait le plus à même ou les plus à même de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
Bonjour René Friedman.
Bonjour.
Vous êtes le gynécologue obstétricien à l'initiative de la fécondation in vitro en France, professeur émérite, consultant à l'hôpital Foch et producteur de matière à penser sur France Culture. Bienvenue à vous. On entendait à l'instant le Premier ministre s'exprimer mercredi à l'Assemblée nationale lors de son discours de politique générale. L'extension de la PMA pour toutes les femmes, c'était une promesse de la campagne d'Emmanuel Macron il y a 2 ans. Le comité d'éthique avait rendu un avis favorable en septembre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en entendant Édouard Philippe, enfin ou prudence ?
Je me suis dit que, décidément, la PMA est quand même quelque chose qui est difficile à prendre dans sa totalité. Et que de mettre en avant une mesure phare, bien sûr, qui est celle de l'extension, n'est pas suffisante. Le problème de la procréation médicalement assistée touche des problèmes de prévention, d'information, de traitement et d'avancée médicale. Étendre les indications, oui, ça correspond à l'évolution de notre société. On peut bien sûr discuter sur les choix individuels, mais je veux dire, globalement, c'est quelque chose qui se passe dans la société, qui a évolué dans son mode de vie, de relations familiales, paternelles, maternelles. Mais ça ne suffit pas. Étendre, si c'est pour donner des résultats médiocres, ça ne suffit pas.
Ça veut dire quoi, des résultats médiocres?
Eh bien, je veux dire que la PMA, c'est pas la panacée, c'est pas la baguette magique, ça marche pas à tous les coups. Et au contraire, c'est extrêmement fastidieux, c'est un parcours du combattant. Et ça ne marche pas à la hauteur de nos espérances. Et pour cela, il faut revenir un peu à la médecine, à la science. Et c'est ça qu'il faut favoriser, je dirais, en premier. Parce que si vous étendez une mesure qui ne marche qu'à moitié, vous n'êtes pas satisfait.
Et on manque de recherche en France sur la procréation.
Mais vous avez déjà vu des campagnes de prévention sur les causes possibles de l'infertilité liées à la nourriture, liées à l'environnement, liées à la pollution, sur le fait. Est-ce que vous avez vu déjà des campagnes d'information sur le fait que chaque femme comprenne qu'il y a une horloge biologique et que l'âge va contre la fertilité et qu'il faut peut-être se remuer un peu avant que cela n'arrive. Donc, et vous avez vu les résultats, parlons un peu clair, les résultats de tous ces efforts, de toutes ces contraintes, eh ben, n'est pas à la hauteur de nos espérances. Nous avons besoin d'une recherche, nous avons besoin de développer. Ces points n'ont pas été abordés. J'espère qu'ils le seront, en tous les cas, dans l'ouverture, justement, de cette discussion. Mais ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas un plan de lutte contre l'infertilité véritable. Il y a un débat, je dirais, qui est un peu crispé, comme vous le savez, mais qui ne voit pas la totalité du problème. Pourquoi ? D'abord, revenons un peu à la cause. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'infertilité ? Pourquoi est-ce qu'il y a un désir d'enfant ?
Il y en a de plus en plus, de fait.
Bah, il y en a de fait de plus en plus parce que déjà, les femmes désirent des enfants plus tardivement qu'auparavant. Ensuite, les compositions familiales se recomposent. Donc on repart pour un deuxième tour un peu plus tard. Et encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, l'horloge biologique féminine, et là il n'y a pas d'égalité entre l'homme et femme, hein, parce que la femme, elle est impactée par son âge, l'homme, non. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut, je dirais, travailler plutôt sur la prévention. Où est le problème de la...
On a des techniques quand même, René Friedman, aujourd'hui, pour contrer, disons, cette horloge biologique féminine.
Vous pensez à quoi ?
Bah, aux ovocytes que nous pouvons congeler.
Alors, vous en avez
entendu... Par exemple ?
Oui, mais est-ce qu'on en a parlé ?
On en parle un petit peu, pas assez pour vous.
Non, non, là, dans la présentation du ministre de la loi, non, c'est un point, effectivement... qui est important, qui n'est pas non plus la panacée parce que ça marche pas non plus à tous les coups. Mais je dirais aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est pas autorisé en France de d'auto-conserver ces ovocytes, accompagnés peut-être avec des limites, les modalités méritent d'être discutées, à quel âge on commence, à quel âge on les utilise, jusqu'à quel âge, bien sûr, c'est pas pour faire des grossesses ultra tardives. Mais effectivement, vous avez raison de pointer ça, mais ça, on n'en a pas parlé. On n'en parle pas, on va peut-être en parler dans le détail. Mais enfin, là, il y a des interrogations. Parce que, effectivement, et puis, même, j'ai envie de dire, bien sûr qu'il faut que les femmes aient la possibilité d'autoconserver à bon escient. Je dis bien à bon escient et accompagné. Mais, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation ? Qu'est-ce qui fait qu'une femme n'arrive pas à mener de pair sa vie professionnelle et sa vie maternelle, on va dire, vous voyez, sauf dans certaines situations relativement confortables financièrement. Donc c'est toute une réflexion quand vous revenez d'un congé maternité et que vous êtes rétrogradé dans votre situation professionnelle, vous freinez un peu des cas de fer inconsciemment ou consciemment. Donc il y a des mesures sociales, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures de développement scientifique et bien sûr il y a des mesures législatives. Et à ce propos-là, on peut vraiment se poser la question, et d'ailleurs j'ai fait avec un député du Modem une tribune dans Libération il y a peu de temps, est-ce que c'est une bonne chose que de revenir sur les lois de bioéthique tous les... tous les combien ?
Là, c'était 1994.
Ça a commencé 94, ensuite c'est 2003, ensuite c'est 2011, et maintenant ça va être 2020 dans les modalités pratiques. Mais en fait, dans la loi, c'était tous les 5 ans, au début. Et ce groupage, si vous voulez, qui fait non pas 5 ans, mais souvent 8 ans, scientifiquement, on a avancé. Je dirais, socialement, on a avancé. Donc il faut pouvoir discuter de différents... Là, peut-être, il faut faire la loi, là, c'est évident, mais on ne peut pas peut-être bloquer ça jusqu'à la prochaine révision dans 10 ans. Il y a peut-être besoin de faire au fil de l'eau, comme pour tous les problèmes de société, la possibilité d'intervenir pour modifier telle ou telle chose.
Oui, malgré
c'est beaucoup
tout,
plus dynamique.
C'est dynamique, malgré tout, ça pose quand même des problèmes. Vous dites que c'est évident qu'il fallait faire avancer cette loi, en l'occurrence peut-être pour l'extension de la PMA à toutes les femmes, c'est-à-dire aux couples de femmes et aux femmes seules, René Friedman. Mais ça n'est pas évident pour tout le monde.
Ah non, j'ai dit que c'était simplement... il fallait regarder ce qui se passait dans la société, qu'il y avait une évolution. Ça mérite une discussion et des convictions. Je vois pas, c'est imposé à personne, déjà, première chose. Mais l'inverse, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on impose, on imposerait un autre point de vue. Le problème, il est, est-ce qu'on va faire une police morale pour aller se balader devant les cafés-concerts ou les boîtes du soir pour empêcher qu'il y ait des rencontres de femmes avec des hommes qui voudraient avoir des enfants par une conception naturelle ? Donc qu'est-ce qu'on critique ? Est-ce que c'est le fait qu'il y a des femmes qui veulent avoir des enfants, je dirais, et qu'ils le décident seuls ? Est-ce qu'on va rentrer dans ce cadre moral ? On peut ne pas le vouloir pour soi, mais on ne va pas empêcher cela. Alors à partir du moment où ça existe, on peut le mettre en place et au contraire, l'accompagner. Parce que souvent, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que ce qui est interdit devient fascinant. Et je dirais là, il faut au contraire montrer aussi peut-être les difficultés, ultérieures. Moi, je suis pas contre que les gens qui ne sont pas pour cette situation s'expriment. Et puis les gens feront leur... les femmes en particulier feront leur choix. Il n'y a pas de raison d'empêcher l'expression.
Disons que le droit existe et puis que chacun fasse son choix évidemment. En fonction de ses convictions ensuite.
Oui. Enfin, c'est comme ça que je ressens les choses.
Est-ce que vous pensez, René Friedman, puisque le Premier ministre disait qu'ils avaient encore des points de crispation quant aux modalités qui font encore l'objet de réunions cette semaine encore avec la ministre de la Santé, la ministre de la Justice, la recherche est également concernée, des points qui sont des points encore de crispation qui ont trait à l'accès aux origines, avec cette question de la levée de l'anonymat des donneurs de sperme, avec le sujet à discuter sur le régime de filiation en cas de PMA avec tiers donneur, on voit bien que, malgré tout, le gouvernement avance avec grande prudence et que le Premier ministre disait on va essayer de choisir l'option qui nous permette d'avoir un débat apaisé. Est-ce que, malgré tout, on peut, selon vous, avoir un débat posé et serein aujourd'hui quand on voit ce qui se passe, quand on voit les questions qui sont posées aux Français. Alors il y a des sondages qui sont très contradictoires. Un sondage pour le Monde qui montre que 75% des Français sont plutôt d'accord, par exemple, pour la levée de l'anonymat. Puis un sondage IFOP également pour la Manif pour tous qui montre que les questions de bioéthique demeurent un sujet très sensible et que pour 50% des interrogés, le fait d'ouvrir ces débats risque de diviser profondément les Français. Comment voyez-vous les choses ?
C'est quelque chose qui touche à l'intime et il est normal qu'il y ait ces divergences. On ne peut pas espérer avoir une unité comme sur tous les sujets, mais particulièrement celui-là, parce qu'il a des ressorts extrêmement profonds de la vie psychique et personnelle de chacun. Je crois que la règle, enfin en tous les cas, c'est ma réflexion, c'est qu'il faut essayer de donner le maximum de liberté à tous les acteurs. Alors pour rester sur la thématique de l'accès aux origines, en cas de don de gamètes, qu'elles soient féminines ou masculines, je pense qu'il faut respecter la volonté de chacun. C'est-à-dire, les parents ont le droit de dire ou de ne pas dire le mode de conception de ses parents. C'est pas la mairie qui va envoyer un petit mot à l'âge de 18 ans à l'enfant pour lui dire son mode de conception. L'enfant, il a le droit, s'il est au courant, je dis bien s'il est au courant, de éventuellement remonter à son géniteur ou génitrice. Le géniteur et la génitrice, il doit, lorsqu'il s'engage, accepter d'être recontacté 18 ans ou 20 ans plus tard. Recontacté, je dis bien. Et là, il va répondre positivement ou négativement en fonction de sa propre vie, quoi qu'il ait dit en dehors de l'acceptation d'être contacté, par rapport à cette demande. Et je crois que là, on respecte l'ensemble des acteurs, on n'impose pas un modèle à tout le monde, car il y a des enfants qui recherchent, d'autres qui ne recherchent pas, ceux-ci sont peut-être moins valorisés médiatiquement, mais ils existent tout autant. Et donc, je crois qu'il faut être assez souple et on ne va pas résoudre tous les problèmes des origines, c'est évident, mais un maximum en réponse à leur volonté. S'il y a des donneuses qui ne veulent plus donner leur contact d'origine, on ne les forcera pas à la baïonnette derrière quand même. Donc il faut les respecter. Et je suis plutôt pour une voie plus souple, de ce qu'on appelle de double guichet, qui est plutôt contesté actuellement, mais qui fait son chemin.
René Friedman, vous êtes gynécologue obstétricien et c'est à ce titre que j'aimerais vous poser une question sur l'autre actualité de la semaine, puisqu'après avoir adopté mardi le projet de la loi santé porté par Agnès Buzyn, le Sénat a débattu longuement de la question de l'allongement de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Ça a d'abord été voté vendredi et puis mardi, revirement, volte-face, le Sénat y a renoncé. C'était un amendement en fait de la sénatrice socialiste Laurence Rossignol, l'ancienne ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes. L'idée, c'est de passer de 12 à 14 semaines de grossesse le délai légal pour avorter. Quel est votre point de vue de gynécologue obstétricien sur la question ?
Ah, je ne prendrai peut-être pas la position des gynécologues, mais au moins le mien.
Votre point de vue ?
Écoutez, déjà en 2001, quand il y a eu la première extension, je n'étais pas pour. Voilà. Parce que je pense que cette... D'ailleurs, ça se voit bien. J'étais pas pour il y a 15 ans, parce que maintenant on fait 2 semaines de plus. Et puis dans 10 ans, on va demander 2 semaines de plus. C'est-à-dire qu'on est en train, comme souvent, de courir après la situation au lieu d'essayer de la prévenir. C'est-à-dire que le véritable problème de l'IVG, et pourtant j'ai depuis fort longtemps pris position pour l'accès des femmes à l'IVG, là aussi encadré, accompagné, etc., il est de développer tout ce qui peut se faire au début. Toutes les traitements, les prises en charge, et répondre à la question. Pourquoi est-ce qu'on repousse le délai ? Parce qu'aujourd'hui, une femme qui veut une IVG, elle n'a pas un accès aussi facile que ça. Surtout dans différents, il y a différents secteurs. Je reviens
d'ailleurs. Et dans les pays voisins européens, parfois, justement, les délais d'accès sont bien plus longs.
Oui.
Au Royaume-Uni, c'est 24 semaines. En Suède, c'est 18 semaines. En Islande, c'est 22 semaines.
Oui,
au Pays-Bas, c'est 24 semaines.
Oui, d'accord. Mais ça, c'est une conception que nous n'avons pas. Nous sommes fixés, je dirais, au niveau de l'embryon et pas du fœtus. Nous sommes plutôt dans le développement, je dirais, de la médecine du fœtus. Et, par contre, l'embryon, c'est un autre statut. Ça revient un petit peu à ça. Mais, dans ces pays que vous évoquez, c'est financé. C'est aussi un problème de marché, soyons clairs. Donc, si vous voulez, moi je suis plutôt pour revenir au début des problématiques. Une femme peut-être dans l'ambiguïté par rapport à sa situation de grossesse, et de tout faire pour qu'il y ait un accès rapide, une aide rapide. Sinon, elle dépasse les délais, et elle va toujours dépasser les délais, parce que c'est extrêmement difficile de prendre une décision, c'est extrêmement ambigu, effectivement, et donc on ne va rien résoudre en repoussant les délais. Peut-être quelques cas, effectivement, qui vont à l'étranger, mais quand même, 3 mois, ça suffit aujourd'hui. C'est plutôt, où est-ce qu'elle est l'information dans les lycées sur la contraception, sur la grossesse, comment révéler qu'on est enceinte ou pas. C'est ça le problème. Les 3 heures obligatoires qu'on devait faire, qui devaient être faites dans les écoles, elles ne sont pas faites. Donc les jeunes qui arrivent, et chaque année il y en a des milliers qui arrivent, ils n'ont pas d'information correcte pour ce genre de situation. Il faut viser, au contraire, à intervenir précocement pour aider un choix qui n'est pas simple, plutôt que de courir après des délais qu'on va repousser dans 10 ans. Vous me réinvitez si je suis là, et pour discuter de l'allongement à 18 semaines ou à 24 semaines, comme nos collègues anglais.
Je voudrais vous demander de réagir à ce que vous venez d'entendre, René Friedman, parce que en même temps que cette jeune génération s'installe aujourd'hui dans le monde d'ailleurs, hein, c'est pas seulement en France, une génération qui est parfois conservatrice, parfois même réactionnaire, et qui prend le relais des anciens traditionnalistes. Eh bien, nous parlions du droit à l'avortement avant d'entendre la revue de presse de Natacha Triou. Il se trouve que parallèlement à cette revendication d'allongement de l'accès à l'IVG en France, eh bien, dans le monde, on assiste clairement au recul du droit à l'avortement. C'est vrai en Hongrie, c'est vrai en Pologne, c'est vrai en Argentine, c'est vrai dans plusieurs États des États-Unis. Comment comprenez-vous, vous, cette montée d'une jeune génération d'un côté, avec ce changement d'un monde et cet avènement d'une ère nouvelle, et le recul du droit à l'avortement?
D'abord, je pense que les revendications du retour à l'interdiction de l'avortement ne sont pas le fait de la jeune génération. Ce sont plutôt le fait d'États et de politiques, je dirais, qui visent à...
Soutenus par une partie, c'est ce que disait
oui, il y a toujours,
à l'instant Natacha Triou, sûr, hein, par une partie de la jeunesse.
Oui, une petite partie de la jeunesse qui est quand même beaucoup plus tournée vers une liberté individuelle et non pas vers autre chose. Mais par contre, c'est un mouvement politique qui vise simplement à peut-être à rassurer en redonnant des repères connus, alors que la société évolue sur des notions qui sont nouvelles et qui sont un peu sans doute déstabilisantes. On voit bien que de toutes parts, je dirais, les certitudes, d'ailleurs pour reprendre ce qui a été fait, deviennent de plus en plus difficiles à affirmer, d'où la nécessité de débat et les convictions qui doivent se faire jour. Et pour le thème que vous abordez, j'insiste, je pense que effectivement il peut y avoir et il y a souvent des ambiguïtés en début de grossesse, mais c'est au début qu'il faut les traiter, c'est pas en repoussant les délais de prise en charge favorisent, si vous voulez, la persistance du doute jusqu'à un moment où on va dépasser la limite, quelle qu'elle soit, pour prendre une décision. Donc ce n'est pas une bonne chose médicale.
En dehors de cette question de l'allongement, et on a bien compris votre position de médecin, René Friedman, sur cette question du recul du droit à l'avortement dans le monde, c'est un sujet qui vous inquiète, c'est une source de préoccupation, ou vous, ce mouvement de va-et-vient dans la société, dans le monde, dans l'histoire?
Non, il faut faire attention à tout ce...
C'est quelqu'un d'inquiet qui vous pose la question, hein, vous l'avez bien compris.
Non, mais je pense qu'il faut être vigilant et que rien n'est gagné définitivement, bien entendu. Mais il est vrai que, si vous voulez, nous sommes en face à une... On voit bien, en dehors de ce problème-là, ce n'est peut-être qu'un symptôme, si vous voulez. Hein. On voit bien qu'en dehors de ce problème-là, les sociétés se crispent sur des points qui leur semblent fondamentaux, et que c'est peut-être là où il faut redonner espoir et avancer sur une évolution qui par ailleurs bouillonne aussi. Donc il faut poursuivre ce genre de débat pour que chacun puisse se faire une opinion.
René Friedman, c'est encore au médecin que je vais m'adresser en vous posant, à la suite de Claire Flochel tout à l'heure dans le journal, en vous posant une question sur le système de soins, sur le système de santé. Est-ce que là aussi vous pensez que c'est le symptôme cette crise des urgences, d'un malaise bien plus profond. Vous parliez tout à l'heure de carrément de l'organisation du système de soins en France. Pour vous, c'est un problème de moyens, c'est un problème d'organisation générale, c'est un problème de malaise des hôpitaux qui vient de loin, que vous avez connu aussi dans votre pratique, ou c'est là encore un changement de société auquel il faut bien faire face?
Je pense que c'est essentiellement, enfin c'est mixte, mais c'est essentiellement un problème d'organisation de la santé avec un système public et un système privé qui est géré différemment et qui doit cohabiter. Or, quand on est patient, et quand on est malade plus exactement, peu importe dans la chance que nous avons dans notre système global de pouvoir être pris en charge ici ou là. Et on va avoir un parcours qui va de temps en temps aller au dispensaire, ensuite à l'hôpital, ensuite éventuellement repris dans une clinique, et éventuellement, je dirais, suivi par une médecine de ville. Donc, il faut que la médecine s'adapte à la demande et non pas l'inverse. Et pour cela, me semble-t-il, il faut que l'on accentue la notion de territoire de santé. C'est-à-dire que quand vous faites une population de 2 millions de personnes, qui peut varier selon le contexte géographique ou le contexte historique, hein, je dis pas que c'est un modèle, mais il y a un territoire de santé qui est naturel, lié au transport, lié au mode de vie, à la campagne ou en ville. Il y a des, voilà. Mais il y a, si vous voulez, dans ce territoire, un certain nombre de gens qui vont avoir, on le sait statistiquement, un certain nombre de problèmes médicaux. Qu'est-ce qu'on leur offre? Et non pas l'inverse. Je décide, moi, d'aller ici parce que c'est bien, c'est vert et j'aime le vert, ici c'est jaune, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on insiste sur cette organisation territoriale et sur cette coordination entre toutes les formes de santé. Il manque à mes yeux, et j'ai eu l'occasion de le dire, un lieu où, si vous voulez, la démocratie sanitaire puisse s'appliquer avec tous les acteurs, et aussi les usagers, d'ailleurs, avec la participation des associations d'usagers, pour mettre en place et répondre. Donc, dans une région donnée, dans un territoire donné, quel est le besoin des urgences? Comment y répondre? Par l'hôpital d'un côté, peut-être par d'autres formes de médecine plus collective qui peut répondre aussi à un accès. Quelle est la permanence des soins que l'on peut faire? Tous les problèmes peuvent être vus comme ça, mais à l'échelle territorial, me semble-t-il. Alors après, c'est compliqué dans les grandes villes, bien sûr, mais on peut aussi, il faut être un peu, me semble-t-il, un peu plus directif pour pouvoir offrir à la population une offre de soins qui répond à la majorité des besoins.
C'est un petit peu le sens des maisons de soins ou des maisons de santé qui sont mises en place?
Alors, effectivement, elles ne sont pas assez suffisantes. Elles sont peut-être loin de, je dirais, des urgences qui a besoin d'avoir un passage rapide selon ce qui se passe. Et puis, les modalités. Encore une fois, si vous allez dans une maison de santé, vous allez débourser les urgences. Vous allez débourser de l'argent. Parce que vous êtes en système libéral. Si vous allez à l'hôpital, vous n'allez pas débourser. Donc, on revient.
En tous les cas, un peu moins.
Enfin, vous-même, non. Le comble, c'est comme vous le savez, c'est que les urgences font rentrer de l'argent aux hôpitaux.
Tout
c'est
à fait,
la Sécu qui paye. D'accord. Mais je veux dire, on est donc dans un système un peu...
C'est pervers.
Voilà. Et donc, c'est ce problème-là qu'il faut adopter. En même temps, tenir compte de la pénibilité de l'organisation et des besoins. Mais c'est vraiment, à mon sens, ce point fondamental, c'est l'organisation privée-publique, un passage et non pas un mur de l'ensemble de la médecine. Et les urgences, ça restera, à mon avis, la base, c'est vraiment une prise en charge publique.
Ce que vous prenez, René Friedman, tout à l'heure vous parliez de prévention et d'information, maintenant vous essayez de nous donner du sens, enfin de penser un système de soins qui n'est sans doute plus assez pensé et organisé. Le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé a été adopté, hein, c'était mardi au Sénat. Il prévoit un certain nombre de choses, il prévoit une réforme des études, avec la suppression du numerus clausus, il prévoit l'amélioration de l'accueil en ville, en amont des urgences, la labellisation de 500 à 600 hôpitaux de proximité. Est-ce que toutes ces choses-là vont dans le sens de ce que vous appelez de vos voeux, réorganisation territoriale?
Absolument. Il y a énormément de, enfin, à mon sens, de très bonnes intentions qui vont après, il va falloir.
C'est décliner. Déjà ça.
C'est déjà ça. Effectivement, mais ça, il y a quelques principes, justement, d'abattre le mur entre le privé et le public. Il y a quelques principes de développer le territoire, mais c'est pas très clair. la notion du territoire. Et moi, je suis beaucoup plus incitatif, en tous les cas, pour constituer ces territoires de santé. Mais il y a effectivement une volonté. Quand je parlais de démocratie sanitaire tout à l'heure, c'est peut-être, faudrait-il, par territoire, une fois qu'ils sont déterminés, or ils ne le sont pas. Donc il y a des zones qui n'ont pas de détermination du territoire de santé. Et comme je le disais aussi, c'est pas relié à la région. Donc c'est peut-être un problème de structure. Une fois que ça s'est fait, il faudrait qu'il y ait une permanence de ce comité, on va dire, de la santé, qui va jusqu'à la prévention au curatif. Et à ce moment-là, il y a un dialogue permanent, parce que on va pas, là aussi, la loi, c'est formidable, mais il y a une continuité, je dirais, un besoin de discuter des problèmes sanitaires en permanence, parce que ça évolue, parce que les médecines, qui pensaient qu'on...
Entre qui et qui?
Mais entre la population et les acteurs, et l'administration, bien entendu. Qui pensait qu'on allait traiter le cancer par immunothérapie, qui coûte très cher, qui va en bénéficier? Qui pensait qu'on allait développer les greffes d'utérus, par exemple, ces derniers temps? Qui pensait qu'on allait traiter l'hépatite C? Donc, on a des évolutions permanentes et des préventions permanentes, et donc il faut un organisme permanent où on puisse évoluer les acteurs principaux, les patients bien entendu, et l'administration qui doit avoir quand même une certaine centralisation bien entendu. C'est un jeu entre le local et le national.
La e-santé, ça peut être un moyen de désengorger les hôpitaux.
Alors, la e-santé,
c'est e-médecine.
Oui, la e-médecine, c'est-à-dire tout ce qui a recours à ce virage numérique, comme on dit, et qui crée aussi un certain nombre de difficultés, mais comme tout le virage et toute nouveauté, c'est incontestablement aussi une évolution de notre société, et il faut l'apprendre, et c'est très bien, je trouve, qu'il y a cette accentuation-là. Mais elle ne changera pas le fait que, en médecine, c'est le contact humain qui est fondamental, c'est l'attention à l'autre, et que ça, dans les études, que l'on mette un concours d'entrée ou pas de concours d'entrée, de toute façon, pas tout le monde qui le veut pourra être médecin. Et je dirais, c'est pas un problème de vouloir, c'est un problème de pouvoir être médecin, c'est d'avoir un bagage suffisant qui sera de toute façon contrôlé à un moment donné. N'en rêvons pas. C'est pas parce qu'on supprime le PACES la première année qu'il n'y aura plus de contrôle. Heureusement, d'ailleurs, on peut même le souhaiter. Mais en plus, un contrôle non seulement du savoir, mais un contrôle de comment faire. Et le comment faire, c'est-à-dire comment tenir compte de l'autre. Donc le virage numérique, oui, à condition que les médecins ne soient pas les yeux rivés sur l'écran, mais rivés sur la personne qui les regarde et qui souffre et qui leur demande conseil.